voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Seigneur, dont ton amour inlassable veille sur nos cœurs sanctifiés par les mystères divins, et puisque tu nous as donné dans ta miséricorde les remèdes du salut éternel, aide-nous par ta protection à les garder fidèlement par le Christ notre Seigneur. Que ton secours, Seigneur, soit accordé aux humbles, et ne cesse de protéger ceux qui se confient en ta miséricorde. Ainsi, pour célébrer les fêtes pascales, ils seront préparés par la discipline du corps et plus encore par la pureté de l'esprit, par le Christ notre Seigneur.
Écoutez KTO Radio.
Dans l'Épître aux Hébreux, saint Paul a ce passage : Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes, vu que tous ont péché. J'espère ne scandaliser personne en racontant une petite anecdote souriante, mais avec un gros mot. Elle s'est passée à une époque où le père évêque, avant de confirmer les enfants, mais durant la cérémonie à l'église, en prenait deux ou trois au hasard pour leur poser quelques questions de catéchisme. Alors, vous imaginez une église bondée, avec peut-être 100-150 confirmants, et on fait venir devant l'évêque un bon garçon de la campagne, gentil, mais sans doute très impressionné par le grand apparat et les fastes de la cérémonie. Le père évêque lui demande « Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'appelle le péché commis par nos premiers parents ?» L'enfant ne sait pas, il baisse les yeux et le père évêque, voulant l'aider, lui dit « C'était le péché, oh, oh !» Et tout à coup, l'enfant, un éclair de génie, le péché horizontal. Vous imaginez l'éclat de rire dans l'assemblée. Il faut préciser que le péché originel, tel qu'il est décrit dans le chapitre 3 de la Genèse, n'a rien à voir avec la sexualité. Adam et Ève commettent le péché originel au chapitre 3, et ce n'est qu'au chapitre 4 que, selon la terminologie pudique de la Bible, Adam connut sa femme Ève. L'enfant, donc très impressionné, est toujours là et l'évêque continue. Comment nos premiers parents se sont-ils sentis quand ils ont eu commis le péché originel? L'enfant ne sait pas non plus. Alors l'évêque, voulant lui faire dire qu'ils se sont sentis coupables, commence. Ils se sont sentis et tout à coup, comme Archimède et son Eureka, l'enfant proclame tout fort « Couillon !» C'est vrai qu'ils ont dû se sentir penauds et pas très fiers, parce que le péché originel a détruit la belle intimité avec le Seigneur et a empoisonné tous les rapports entre les hommes. Il faudra tout l'amour du Fils qui se fait homme pour nous remettre dans l'amour, pour remettre l'homme debout, pour le remettre vertical. Le péché originel, cette doctrine, est très importante dans notre foi pour plusieurs raisons que je signale rapidement. D'abord, elle nous dit que ce mal que nous avons en nous, cette capacité du mal, ce pouvoir de blesser, de peiner, n'est pas une gaffe de Dieu. Ce n'est pas comme un défaut de fabrication. Il nous avait créés dans l'intimité avec lui. C'est le voisin du dessous qui est venu troubler les choses et pousser l'homme du côté où il n'aurait jamais dû tomber. Saint Paul l'a bien décrit, ce péché originel, en disant le tourment que nous vivons. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je voudrais éviter, je le fais. Alors, trois petites images pour nous en parler, en se rappelant que péché originel désigne deux choses. D'abord, le péché commis par nos premiers parents. On ne sait pas en quoi il a consisté, si ce n'est que c'est un péché de d'orgueil, de rébellion. Ils ont dit, au fond, on est assez grand pour se débrouiller tout seul, on ne va pas écouter quelqu'un qu'en plus on ne voit pas. Ils en ont fait qu'à leur tête. Et ce péché originel, que certaines langues, comme l'allemand, je crois, appellent péché héréditaire, désigne aussi l'état de péché dans lequel nous naissons. Parfois, on me dit, les enfants, c'est l'innocence. Mon œil, un enfant, ça peut se montrer jaloux, ça peut se montrer tyran. Des amis les appellent les tyrannosaures quand ça dépasse les bornes. Ça peut se montrer capricieux, boudeur. Or, personne ne leur a appris comment être jaloux, comment bouder, comment faire un caprice. C'est quelque chose qui nous dépasse. Alors, imaginons un vaisseau spatial. Dans le vaisseau extraordinaire, il y a son concepteur, le commandant. Et puis, il y a son lieutenant. Vous voyez quel rôle. Le commandant, c'est le seigneur. Le lieutenant, c'est l'homme. Le commandant passe les commandes à son lieutenant en lui recommandant surtout de ne pas prendre d'initiative, surtout de ne pas chercher de raccourci. Mais une fois le commandant parti, le lieutenant calcule et trouve que c'est beaucoup plus formidable de rejoindre la Terre de cette façon. Ils atterrissent et il appelle tout fier le commandant et puis ils s'aperçoivent très vite qu'ils ne sont pas sur la Terre. Voilà, Adam et Ève, en premier de cordée, devaient nous conduire au ciel. Ils nous ont conduits aux enfers. Pas forcément en enfer, mais aux enfers. Il n'y a pas besoin de faire de description. Deuxième petite histoire que j'ai entendue sur cette chaîne KTO, racontée par Rémi Brague. C'est plutôt d'ailleurs une comparaison. Il dit au fond que le péché, c'est comme de la fausse monnaie que l'on se refile les uns aux autres. Et puis un jour, il y en a un qui dit non, ça ne passera pas par moi. Seulement, si vous avez un billet de 50 euros en fausse monnaie, si vous le gardez, si vous ne le faites pas passer, vous le perdez. Eh bien, Jésus en a perdu la vie. Il n'a pas voulu que ça passe par lui. Et du coup, en nous mettant avec Jésus, en lui, nous pouvons nous aussi faire barrage à cette fausse monnaie. Troisième petite comparaison, imaginez une maman qui n'a pas trouvé de nounou et qui doit faire une course urgente et qui met ses trois petits-enfants dans la salle de jeu en leur faisant les ultimes recommandations. Tout est à vous les enfants, simplement ne mettez rien, ni fer, ni clou, ni fil de fer dans ces deux trous-là. Ça s'appelle une prise électrique. Évidemment, dès que maman a le dos tourné, c'est la première chose à laquelle ils pensent, puisque c'est interdit. Et ils vont mettre un clou dans la prise. Vous imaginez la suite, ils vont être électrocutés. Bien sûr, maman viendra à leur secours. C'est ça le péché originel. Nous avions le jardin tout à disposition, mais maintenant, nous avons Jésus, comme les enfants ont eu leur maman. Heureuse faute, chantons-nous à la nuit pascale, qui nous a valu un tel rédempteur.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Chanceux, lenteur de la terre. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je
matinale, présentée par Maxence Eloy. KTO Radio.
8h20, heure de Paris. Merci pour votre fidélité. Lundi 14 avril, lundi saint, on marche vers Pâques ensemble dans la matinale. Au programme des prochaines minutes à 8h30, le journal de Radio Vatican. À 8h45, c'est l'invité de la matinale. On retrouve le président du syndicat national de l'édition, Vincent Montagne, au lendemain du Festival du Livre qui s'est conclu hier à Paris. Et tout de suite, à 8h20, on retrouve Loïc Landreau qui se demande comment et pourquoi.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On continue de vous accompagner sur votre chemin vers Pâques en évoquant une magnifique plante grimpante qui donne de superbes fleurs aux couleurs éclatantes, la passiflore. Alors, ok, c'est pas une espèce aussi répandue en France que le rosier ou le géranium, mais elle est bel et bien cultivée dans notre pays et elle est réputée pour être un excellent antistress. Et la question du jour est la suivante, d'où la passiflore tient-elle son nom ? Oui, ok, il y a flore dedans, du latin flora, fleur, jusque-là c'est assez facile. Et puis il y a ce préfixe-là, passi, passi, passion, fleur de la passion, voilà, vous commencez à voir où je veux en venir. Allez, on va reprendre les choses depuis le début. La passiflore est découverte au XVIe siècle par les conquistadors espagnols lorsqu'ils explorent et colonisent l'Amérique centrale ainsi que l'ouest de l'Amérique du Sud. Et comme souvent dans de telles expéditions, des prêtres sont du voyage. D'abord pour permettre à l'équipage de vivre sa foi au quotidien pendant les longs mois en mer, mais également pour bâtir des communautés chrétiennes sur place et évangéliser les peuples autochtones. Mais comme vous l'imaginez, une fois dans ces contrées encore sauvages et hostiles, les missionnaires rencontrent quelques difficultés de communication surtout avec les locaux. Il y a la barrière de la langue et souvent des traditions ou des schémas de pensée étrangers aux leurs. Alors, pas si bêtes, les religieux constatent que la passiflore pullule dans ces forêts tropicales. Et en la regardant de plus près, ils remarquent que ses organes représentent de grands symboles chrétiens de l'épisode de la Passion du Christ. Regardez d'abord ce cercle de filaments effilés. Il leur rappelle la couronne d'épines de Jésus. Les trois styles marrons du pistil qui surplombent le cœur de la fleur leur évoquent les clous utilisés pour sa crucifixion. Et ce qu'on appelle l'ovaire symbolise le marteau qui les planta. Et c'est pas fini. Chez certaines espèces, les feuilles ont trois branches. Les missionnaires y ont vu une allégorie de la lance qui a transpercé le flanc du Christ sur la croix. D'autres espèces de ces plantes ont aussi des feuilles qui se dispersent en vrille, un peu comme les feuilles de vigne. Et pour ces ecclésiastiques, c'est un symbole du fouet qui a flagellé Jésus pendant son calvaire. Mais c'est toujours pas fini. La passiflore compte 5 organes reproducteurs teintés de rouge, qu'on appelle les étamines. Un chiffre qui rappelle les 5 plaies que le Fils de Dieu crucifié avait sur le corps. Quant aux 10 pétales, que vous voyez très bien ici, ils représentent les 10 apôtres, en excluant Judas et Thomas. Voilà, c'est grâce à cette morphologie plutôt providentielle et un grand sens de la pédagogie que les missionnaires sont arrivés à expliquer la Passion du Christ aux autochtones. Et du coup, vous avez forcément compris l'origine du nom que les religieux lui ont donné. Passiflore, fleur de la Passion. D'ailleurs, la passiflore donne un fruit, le fameux fruit de la passion. Eh oui, je sais, tout le monde croit qu'on parle de la passion au sens charnel du terme, parce que fruit exotique, soleil, tout ça. Mais en réalité, ce fruit, aussi appelé grenadille ou maracuja, est produit par la Passiflora edulis, une des nombreuses variétés de cette plante, et porte aussi en lui toute cette symbolique chrétienne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir partagé ces aventures botaniques avec autant de passion. Et à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bye.
Et il en connaît des choses. Merci à Loïc Landreau pour le pourquoi du comment. Le journal de Radio Vatican arrive à 8h30 exactement. C'est juste après un peu de musique. Je vous propose d'écouter les Guetteurs et leur titre Soul Warriors sur KTO Radio.
tête, on a le mental. On va garder le pantalon bien serré sur la taille. Quiconque voudra nous l'enlever finira sur la paille. On a le vent derrière nous, on guette le réveil. On creuse monde inversé, bientôt le sommet. Moi, je creuse avec mes dents, je creuse avec mon cœur. Je creuse avec mes chants, je creuse avec mon esprit. Je me bats pas pour tes fonds, je me bats pas pour tes fleurs. Plus petit que grand, rien à faire de ton estime. J'estime que ma vie vaut moins cher que mon honneur. Le monde a besoin de meneurs. Crois surtout pas que la force c'est le corps. Sache que tes yeux c'est la porte du fort. Parce que tes yeux ont souri à mes yeux. T'as délivré l'âme d'un homme sous le sort. Vois la coupe de la foi. Le chemin est plus long que la route de la soie. Moi j'ai plié bagage depuis quelques années. Sur la carte froide j'ai fait qu'un cas. J'suis banné, barre sur le nez. Au premier qui te dit que t'es nulle part, t'es damné. Sache que l'amour t'a pardonné. Depuis bien longtemps, depuis les premiers regrets. Depuis les premières larmes étouffées dans l'oreiller. Tout le mal accompli, est-ce que tu le referais? Quand tu remets ton âme, tu passes la nuit éveillée. Yeah, prends le temps de chercher. Dans le cœur de l'autre, prends le temps de percer. Sa carapace, faute de quoi tu seras maladroit quand il s'agira de l'aimer. Warrior of love, we are so warrior. Le sang de sa tête a coulé. Ou quand le marteau d'un coup s'est cacloué. Ces mains qui n'ont fait que donner. Où étions-nous quand la foule a crié? Quand le sang de sa tête a coulé. Ou quand le marteau d'un coup s'est cacloué. Ces mains qui n'ont fait que donner. Oui, j'étais pas là. Occupé à faire la fête dans un palace. Oui, maman j'ai mal. Impose tes mains sur ma tête, pardonne-moi.
Sur KTO Radio, le journal de Radio Vatican, radio de la voix du pape, c'est maintenant en direct depuis Rome en ce lundi 14 avril.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Laudetur Jesus Christus.
Messe des rameaux, entrée des chrétiens dans la Semaine Sainte. Le pape avait préparé l'homélie lue par le cardinal Sandri, un texte qui revient sur la figure de Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix. Dans son message pour l'Angélus, François renouvelle son appel aux belligérants au Soudan à cesser les combats et à se mettre autour d'une table pour négocier. Mais sur le terrain, les affrontements s'intensifient, notamment au Darfour. Autre pays meurtri, toujours dans les prières du pape, l'Ukraine. L'entrée dans la Semaine Sainte a été marquée par une attaque meurtrière de la Russie contre la ville de Soumy. 34 personnes ont été tuées, 117 blessées. Les Syriens privés d'eau dans la province de Dera, en cause l'armée israélienne qui s'empare des ressources en eau de la région. Reportage auprès des agriculteurs syriens. Et puis toujours en Syrie, les chrétiens peu optimistes quant à l'évolution de leur pays. C'est ce que nous confiera Mgr Jacques Mourad, l'archevêque syriaque catholique de Homs. Ce sera dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, joyeux dimanche des rameaux et bonne semaine sainte. Ce sont les mots du pape François qui a fait une apparition à la fin de la messe hier matin, place Saint-Pierre. Le Saint-Père, toujours en convalescence, en a profité pour saluer quelques personnes sur le parvis. Et quelques minutes donc au milieu des fidèles qui venaient de suivre la messe des rameaux qui marque l'entrée dans la semaine sainte et qui rappelle le récit de la passion du Seigneur. Une messe célébrée par le cardinal Leonardo Sandri, vice-doyen du collège cardinaliste sur délégation du pape qui avait écrit l'homélie. Dans ce texte, François revient sur la figure de Simon de Cyrène, celui qui aida Jésus à porter sa croix. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Dans son homélie, lue par le cardinal Sandri, vice-doyen du collège cardinalis, le pape rappelle que le Cyrénéen, réquisitionné par les soldats qui le chargent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus, est obligé de porter ce fardeau. Il n'aide pas Jésus par conviction, mais par contrainte, un geste ambivalent puisqu'il se retrouve à participer personnellement à la passion du Seigneur. Contrairement à Simon-Pierre qui avait promis de suivre le Christ avant de le renier, c'est ce Simon-là que François a invité à regarder. Un Simon silencieux, aucune parole n'est échangée avec le Christ. Entre lui et Jésus, il n'y a que le bois de la croix. Nous devons scruter son cœur, a encore écrit le pape dans son homélie, en nous rappelant aussi de ce que Jésus a fait pour Simon. Comme pour moi, pour chacun de nous, il a racheté le monde. Le Saint-Père a ainsi invité les fidèles à suivre les pas de Simon, car il nous enseigne que Jésus vient à la rencontre de chacun dans toutes les situations. Combien de Cyrénéens portent la croix du Christ? Les reconnaissons-nous? Voyons-nous le Seigneur sur leur visage déchiré par la guerre et la misère, a interrogé le pape. Face à la terrible injustice du mal, porter la croix du Christ n'est jamais vain, a-t-il poursuivi. C'est au contraire la manière la plus concrète de partager son amour sauveur. François a ainsi invité à nous demander comment porter la croix durant la Semaine Sainte, non pas autour du cou, mais bien dans notre cœur, non seulement la nôtre, mais celles aussi de ceux qui souffrent à nos côtés. Et alors que Pâques approche, nous sommes tous invités, a-t-il dit, à devenir des Cyrénéens les uns pour les autres.
Olivier Bonnel est dans son message pour l'Angélus publié par le Vatican. Le pape revient sur, écrit-il, le triste anniversaire du début du conflit au Soudan qui a fait des milliers de morts et contraint des millions de familles à fuir leur foyer. Une guerre civile intolérable pour l'évêque de Rome. La souffrance des enfants, des femmes et des personnes vulnérables crie vers le ciel et nous supplie d'agir, poursuit le pape qui renouvelle son appel aux parties impliquées pour qu'elles mettent fin à la violence et s'engagent sur la voie du dialogue et à la communauté internationale pour que l'aide essentielle aux populations ne manque pas. Sur le terrain, une série d'attaques meurtrières continue d'endeuiller principalement le nord Darfour. Les précisions d'Augustine Passy.
Vendredi 11 avril, les forces de soutien rapide ont lancé une nouvelle offensive sur la dernière capitale du Darfour qui leur échappe, El Fasher. Les paramilitaires ont également attaqué deux camps de déplacés situés à proximité, Zamzam et Abu Shouk. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a condamné la mort de nombreux civils ainsi que de 9 membres du personnel de l'organisation Relief International tués dans un centre de santé de Zamzam où ils fournissaient une aide médicale d'urgence. Cela porte à plus de 90 le nombre de travailleurs humanitaires morts au Soudan depuis le début du conflit le 15 avril 2023. Toujours jour au nord Darfour, les FSR ont annoncé avoir repris la ville d'Oum Kadada jeudi. Un comité de résistance locale estime qu'au moins 56 civils ont péri dans cette attaque. Le calendrier de ces nouvelles violences correspond au deuxième anniversaire de la guerre qui oppose les FSR à l'armée soudanaise. Le chercheur soudanais Souleyman Baldo m'expliquait que les FSR cherchent à tout prix à lancer un assaut final sur El Fasher qu'ils assiègent depuis bientôt un an. Ils veulent absolument reprendre la ville avant le 15 avril. Augustine Passilly pour Radio Vatican.
Les résultats ne sont que provisoires au Gabon. Le général putschiste Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait mis fin au pouvoir de la famille Bongo, c'était en août 2023, a été élu président de la République avec plus de 90% des voix. Le taux de participation s'élève à 70%. Une entrée dans la Semaine Sainte marquée par des scènes d'horreur en Ukraine. La Russie a lancé des missiles balistiques sur le centre-ville de Soumy, dans le nord-est du pays, hier. Ce matin, le bilan s'élève à 34 morts et plus d'une centaine de blessés. Ce sont les frappes russes les plus meurtrières sur des zones civiles depuis plusieurs mois, Marine Oriot.
Oui, Xavier, il faut dire qu'hier matin, le centre-ville de Soumy était bondé, notamment par ceux qui se rendaient à l'église pour célébrer le dimanche des rameaux. Les personnes tuées sont donc toutes des civils. Les images publiées dans la foulée de l'attaque montrent des corps gisant dans la rue, des bus et des voitures en feu, une population en panique courant se mettre à l'abri. Dans sa première réaction, le président ukrainien dénonce une frappe, un jour, je cite, où les gens vont à l'église. Réaction virulente également de la part des Occidentaux, Européens et Américains. Donald Trump parle d'un bombardement terrible, une erreur, dit-il. Ces frappes arrivent alors que les États-Unis tentent sans succès de négocier avec la Russie pour arriver à cesser le feu en Ukraine. Mais ces dernières semaines, Moscou attaque sans relâche son voisin. Au début du mois, une frappe tuait 18 personnes, dont 9 enfants dans le centre du pays. Selon le président ukrainien, ajoutait-il hier, il ne faut pas faire confiance à Vladimir Poutine pour des négociations. Kiev qui estime que la Russie augmente ses attaques pour créer des zones tampons en sa faveur sur le territoire ukrainien.
Marine Henriot, et puis joint par Radio Vatican, le nonce apostolique à Kiev, Mgr Visvaldas Kulbokas, a condamné cette attaque. Il ne reste plus qu'à se tourner vers le Seigneur pour qu'il nous protège, car il semble qu'aucune autre force ne soit capable de protéger la paix et la vie. Que le Seigneur ait pitié de nous, a-t-il notamment déclaré. En Terre Sainte, lors de la messe des rameaux, le patriarche latin de Jérusalem a défendu la vocation de la ville et les tentations d'en faire un point de fracture et de division. Nous ne devons pas avoir peur de ceux qui veulent diviser, exclure et s'emparer de l'âme de cette ville sainte, car Jérusalem restera à jamais une maison de prière pour tous les peuples et personne ne pourra la posséder, a-t-il notamment déclaré. Non loin de là, le calvaire des civils palestiniens de la bande de Gaza se poursuit. Hier, l'armée israélienne a frappé un des rares hôpitaux encore en fonction dans le territoire, à Gazaville. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un enfant est mort à cause de l'interruption des soins. Samedi, Israël a annoncé l'extension de son offensive dans la plus grande partie de la bande de Gaza. L'armée israélienne en action également en Syrie. Outre les cibles militaires visées par son artillerie ou son aviation, elle mène des incursions fréquentes dans le sud du pays, sur le mont Hermon, principale ressource en eau de la province de Dera. Elle s'est emparée de dizaines de barrages et de réservoirs qui, d'ordinaire, irriguent les terres agricoles de la région, dont les légumes et le blé nourrissent l'essentiel de la Syrie. Reportage dans la vallée de Kouaïa de Manon Chaplin.
Du bout des doigts, Ami défrit de la terre de ses champs arides. 7000 mètres carrés, des tomates, des courgettes qu'il ne peut plus arroser. Car au lendemain de la chute du régime, les forces israéliennes se sont emparées du réservoir d'à côté. Oum Alazom, c'est son nom, alimente d'ordinaire en eau les barrages, les champs alentours.
Nous sommes désormais obligés de pomper l'eau nous-mêmes et l'essence coûte cher. Mais nous n'abandonnerons pas, ce sont nos terres, celles de nos familles, depuis des générations.
Depuis la chute du régime, les incursions israéliennes dans la province de Dera se sont multipliées. Elle vise les ressources en eau, les collines, les champs, terrorise des centaines d'habitants. À Kouaïa, le 24 mars, les chars israéliens ont mis seulement quelques minutes à encercler les collines. 7 personnes au total ont été tuées. Ahmad, lui, s'est fait arrêter.
Ils nous ont emmenés de l'autre côté de la frontière en nous rendant les yeux. Ils nous ont interrogés et demandé si on hébergeait des membres de Daesh, des milices iraniennes ou du Hezbollah. Mais nous ne sommes que de simples agriculteurs.
Face à un puits, pioche à la main, Iwan explique. Israël pomperait aussi les nappes phréatiques. Alors pour trouver de l'eau, il faut creuser la terre bien plus loin qu'avant, encore 200 mètres de profondeur. coût des travaux, 200 000 dollars.
Les agriculteurs sont déjà dans la misère. Nous demandons de l'aide. Ce village est vraiment très pauvre.
Selon le conseil local de Kouaya, une quinzaine de barrages seraient aujourd'hui inaccessibles dues aux différentes incursions israéliennes. De retour de Kouaya, Manon Chaplin, Radio Vatican.
Les Libanais commémorent ces jours-ci les 50 ans du début de la guerre civile qui ravagea leur pays. Hier, le patriarche maronite Béchar Haraï a affirmé que le Liban avait tourné la page de la guerre civile. Aujourd'hui, a-t-il déclaré, il tourne celle de sa sortie de la légalité de son combat contre elle. Une référence à la volonté affichée par le gouvernement de rendre le monopole des armes à l'armée. Retour en Syrie en pleine transition politique où le retour des violences sectaires effraie les minorités du pays, à commencer par les Alaouites dont était issu Bachar al-Assad. Début mars, au moins 1700 civils Alaouites ont été massacrés, ainsi que des chrétiens faisant rejaillir les fantômes du passé. Pour la minorité chrétienne du pays, cette nouvelle phase de l'histoire du pays est un test, mais les signaux donnés jusqu'ici ne sont guère encourageants. C'est ce que nous confie ce matin Mgr Jacques Mourane, l'archevêque syriac catholique de Homs. Nous l'avons rencontré lors d'un de ses récents passages à Rome.
Ça met vraiment une grande question sur cet gouvernement actuel. D'abord, sur la sincérité de cet gouvernement, parce que pour tout le peuple en Syrie, il y a une grande différence entre les discours qu'ils font et la réalité. Ou bien ils manipulent, ou bien ils ne sont pas capables de gérer le pays. De toute façon, si soit le premier ou le deuxième raison, ça veut dire que ce gouvernement n'est pas digne de continuer et de prendre la charge et la responsabilité d'un pays comme la Syrie. Quand on parle des massacres des Alaouites sur la côte, on se concentre sur le côté négatif. Mais personne n'a parlé du peuple sunnite, des habitants de ces régions qui ont accueilli, qui ont protégé les Alaouites, leurs voisins, leurs amis. C'est dommage, c'est triste.
Le gouvernement de transition a dévoilé la future constitution du pays. Il y a des signes positifs sur la liberté d'expression, la place des femmes. Il y a aussi des signes d'inquiétude. Le fait notamment que la loi islamique reste et devrait rester à l'inspiration de la future constitution. Quel est votre regard sur cette constitution? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes?
Que la Syrie, c'est un pays islamique, ce n'est pas un problème, parce que ça, c'est la vérité aussi. Mais la réalité est complètement différente. On ne peut pas accepter que le pays soit dirigé par la loi islamique. Parce que la loi islamique, quand même, n'a pas de respect pour la liberté individuelle. Il y a beaucoup de différences entre le droit de l'homme et la loi islamique. Donc ça ne peut pas être la source pour gérer la justice dans notre pays.
Qu'attendent les chrétiens syriens de cette nouvelle constitution?
En général, la communauté chrétienne en Syrie, les restes de la communauté chrétienne, ils ont tous peur, préoccupés. Ils n'ont aucune confiance à cet gouvernement. Et tout le monde pose la question par rapport à l'immigration. Concrètement, on se sent étranger dans notre pays. Tout le monde, ils sont enfermés dans leur maison. On est très, très loin de la démocratie et de la liberté.
La Syrie est un pays ruiné économiquement, socialement, un pays très pauvre. Qu'est-ce que vous vous attendez de la communauté internationale aujourd'hui pour qu'elle puisse aider les Syriens, aider la Syrie de demain à se remettre debout?
Moi, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui en Syrie, c'est à cause du manque de responsabilité de la communauté internationale. Si la communauté internationale, elle est sérieuse dans sa recherche pour la paix, elle doit d'abord réaliser cette paix en Syrie. Parce que la Syrie, c'est le pays qui fait le lien entre tous les pays de l'Asie et l'Europe. Il faut protéger la Syrie et le peuple syrien, parce que sinon, la Syrie n'est pas loin de l'Afghanistan.
Interrogé par Olivier Bonnel, Mgr Mourad était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h hors de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Et le retour de l'information sur KTO Radio, c'est à partir de midi et demi. En attendant, il est 8h45 et on retrouve maintenant l'invité de la matinale.
L'invité de la matinale. KTO Radio.
Le Festival du Livre, anciennement le Salon du Livre, s'est clôturé hier au Grand Palais à Paris, 44e édition qui a mis à l'honneur la mer et le Maroc. Notre invité ce matin est le président du syndicat national de l'édition, Vincent Montagne. Bonjour.
Bonjour Maxence.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également le président directeur général de Média Participation ainsi que le président de KTO. On vous a entendu sur tous les plateaux et les studios ces derniers jours. On va faire avec vous un état des lieux du marché du livre, mais d'abord un bilan après ces 3 jours de Festival du Livre. Vous êtes un président heureux?
Je suis un président très heureux parce que c'était cette année le retour au Grand Palais. Et ça faisait des 30 ans pratiquement que le salon du livre, qui s'appelle effectivement maintenant le Festival du Livre, n'avait pas remis les pieds au Grand Palais. Donc nous avons annoncé hier soir avoir eu 114 000 visiteurs pour cette 4e édition du Festival du Livre de Paris. Mais la première de retour au Grand Palais, qui est un lieu prestigieux, très beau, et qui est un écrin formidable pour le livre.
Quel bilan tirez-vous de cette 44e édition ?
J'en tire un bilan étonnant, parce qu'il y avait 43% de nos visiteurs avaient moins de 25 ans. Et donc, bien sûr, il y a eu une programmation riche et exceptionnelle. C'était le Maroc, le pays invité. Le Maroc, ça veut dire la présence de plus de 50 auteurs du Maroc et 38 maisons d'édition. Et au total, il y avait 450 maisons d'édition. Alors, il y a tous les genres littéraires, intellectuels, et beaucoup donc de livres jeunesse. Il y a une explosion de ce qu'on appelle la New Romance, avec des maisons d'édition, donc vous aviez des files interminables de 50, 100, alors déjà 100 ou 200 mètres ou 300 mètres pour rentrer au Grand Palais, mais on avait fait ce qu'on avait, on donne une heure précise pour rentrer, parce que pour pouvoir entrer, on ne peut pas dépasser 12 000 personnes en simultané dans le Grand Palais. Et puis après, les queues se répartissaient sur les sites où 1200 auteurs ont dédicacé pendant 3 jours.
Donc une réussite, on vous entend. Alors Vincent Montagne, on lit moins, c'est un fait, on ne cesse de le dire également que c'est le cas particulier des jeunes, on va y revenir plus tard dans l'interview, mais pourtant Vincent Montagne, on a le sentiment que le marché du livre, même si on lit moins, il se porte bien.
Alors, c'est pas les jeunes qui lisent moins, c'est le paradoxe, c'est que ce sont les grands lecteurs. Donc c'est les plus de 50 ans, donc... ceux qui sont beaucoup sur les tablettes, les iPhones, l'explosion de l'utilisation, c'est les 60 ans et plus. Donc, traditionnellement, les jeunes abandonnent quand même en grande partie la lecture après l'école. Mais on le voit, la lecture est assez stable chez les jeunes. Ce qu'il y a, c'est que notre temps de lecture baisse. Tous, chacun, parce qu'on est tous pris par mille choses, pendant le confinement, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc on a tous lu ou regardé des séries à la télévision, mais le voyage, les déplacements, ou même la participation dans des parcs, des parcs d'attractions, on voit que la multiplicité des choses à faire réduit relativement inexorablement le temps de lecture. Je voudrais juste vous rappeler que dans les années 2000, de façon très étonnante, il y avait des librairies qui ouvraient à minuit une, pour la sortie de Harry Potter. Et donc, il y avait tout un public lecteur jeune qui avait retrouvé le chemin des librairies grâce à Harry Potter. Autrement dit, c'est toujours un peu la problématique de l'offre. C'est-à-dire quand vous avez des bons livres ou des livres qui plaisent, en tout cas, vous avez une accélération. En ce moment, on dit que le temps de lecture baisse de 10 minutes par jour. Je parle de lecture de livres. Et dans la décennie 2000, il avait augmenté de un quart d'heure par jour.
Et une stabilisation. Et comment se porte de manière générale le marché du livre aujourd'hui?
Alors, précisément, si on regarde les chiffres, on est assez stable. Le secteur du livre, c'est un petit secteur. Hein. On fait 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, tout compris, c'est-à-dire éditeurs et libraires. Et on est à moins 1% par rapport à l'an dernier. On est régulièrement en baisse, mais on est encore plus haut que 2019 avant le Covid. Donc, et ça représente à peu près 339 millions, enfin c'est précis même, d'exemplaires. Et en volume, on est à moins 3%. Donc moins 1% en chiffre d'affaires, moins 3% en volume. Ça prouve que le prix du livre a suivi quand même l'inflation, a légèrement augmenté. Mais vous voyez, on est sur des marchés qui sont relativement stables quand même.
Et plus globalement, quelles sont les évolutions structurelles de ce marché ces dernières années?
Alors, dans l'organisation du marché, pas trop de changements, c'est-à-dire vous avez les libraires restent très prégnants. Le livre numérique est assez faible en réalité. Je parle du livre numérique grand public, parce que bien sûr, quand vous prenez des secteurs économiques précis comme le droit, la médecine, le transfert vers le numérique est très important. Mais le livre numérique grand public ne représente que 3%. Du marché à comparer au livre physique, c'est-à-dire au livre imprimé. Donc, secteur assez stable. Vous avez la montée de grandes enseignes culturelles comme Cultura, par exemple. Donc, qui il y a 20 ans n'existait pas. Amazon a plutôt réduit ses parts par rapport à il y a 5 ans. Donc, c'est un marché relativement stable. Et, des maisons d'édition. Alors, il y a beaucoup de créations de maisons d'édition. En région, beaucoup. Donc vous avez 2000 maisons d'édition, mais moi je suis président du syndicat national qui représente, enfin qui a 720 adhérents, et ces 720 adhérents représentent plus de 90% de l'offre.
Et au niveau des tirages de ces maisons d'édition, est-ce qu'il y a eu également une évolution à ce niveau-là?
Alors, bien sûr, ce qu'on est en train de dire, c'est que si le nombre d'exemplaires vendus baissent, ils baissent par livre. C'est-à-dire que bien la croissance du nombre de maisons d'édition et d'auteurs, on y reviendra peut-être sur la création éditoriale, le nombre de maisons d'édition et de titres qui sortent est peut-être aussi en auto-édition, dont on parle moins, est en augmentation. Et donc, dans cette augmentation, y inclut l'auto-édition. Par nature, le nombre de ventes par livre baisse. Donc, c'est une complexité, c'est-à-dire qu'il y a moins de... il y a quand même... C'est plus difficile pour chaque auteur d'être rémunéré parce que ses ventes baissent.
Et à quoi répond cette logique du produire davantage de livres?
Eh bien, la sélection est forte à l'entrée. Mais nous recevons toujours plus de manuscrits. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Vous avez beaucoup de jeunes qui écrivent aujourd'hui. Alors, on a fait, par exemple, on a mis en place, il y a une dizaine d'années, le prix Clara, qui récompense des nouvelles écrites par des jeunes qui ont entre 13 et 18 ans. Donc, c'est vraiment des scolaires, des collégiens qui écrivent. Et nous publions chaque année aux éditions Florus un livre regroupe 7 ou 8 nouvelles, alors que nous en recevons 350 à 400 chaque année. Donc il y a un prix qui est remis à l'hôtel de ville de Paris, qui consacre les 7 nouvelles les plus réussies, et vous avez effectivement des jeunes qui écrivent très bien. Alors on vient de lancer ce prix donc qui est français, en Italie, en Allemagne et bientôt en Suisse. Donc ça montre que cette floraison d'écriture, cette volonté d'écrire et d'envoyer à des maisons d'édition des manuscrits est un phénomène qui n'est pas uniquement français.
Et concernant le marché du livre religieux, comment est-ce qu'il se porte ?
Alors le marché du livre religieux est plutôt en renaissance. On avait eu une floraison de maisons d'édition après le Concile dans les années 70, et puis plutôt un reflux négatif du nombre de productions éditoriales. Et là, on s'aperçoit que vous avez pu le constater, c'est des sujets qui sont abordés sur KTO régulièrement, du retour de la pratique religieuse, notamment à l'occasion des grandes fêtes. On le verra très certainement cette semaine, puisque je crois qu'il y a 7000 adultes qui... donc on est en progression de plus de 30% par rapport à l'an dernier. Les plus 30, c'est de 2024 par rapport à 2023. 2025, on ne le sait pas encore. Mais on a une croissance. Et donc, naturellement, les recommençants vont en librairie religieuse ou achètent des livres religieux. Mmh. Alors, MAM a sorti en décembre un livre qui s'appelle Je crois en Dieu, avec le frère Paul Adrien. Et ce livre a dépassé les 15 000 exemplaires. On est à la troisième réimpression. Donc on voit, et on pourrait citer plein d'exemples, mais celui-là est assez emblématique, évidemment, parce que vous voyez, c'est l'annonce directe de la foi et de l'évangile qui touche beaucoup de recommençants aujourd'hui.
On l'a dit en début d'interview, on en a parlé, Vincent Montagne, sur le temps de lecture qui baisse chez les Français. Pour autant, si je vous entends, sur les 114 000 personnes qui sont venues au Festival du Livre, vous avez dit que 43% avaient moins de 25 ans. Vous avez parlé de la New Romance qui attire beaucoup les jeunes. Vous dites également que les jeunes écrivent de plus en plus. C'est encourageant pour la lecture, pour le livre, pour l'avenir de ce marché-là.
Alors moi je crois, de toute façon, l'écrit est à la racine de tout le reste. C'est pour ça nous avions, pendant ce festival, tous les soirs, des avant-premières de films qui sont issus de romans. Il n'y a jamais eu autant de transcriptions à l'écran d'écrits, de romans. Moi je crois évidemment que l'écrit a toute sa place à l'avenir. Pour l'instant, alors vous savez, il y a 200 ans, c'est les livres, ils étaient déclinés par chapitre dans les journaux, et puis après, c'était finalement le livre était une exploitation secondaire. On a connu ce même phénomène dans les années 1960 pour en bande dessinée. C'était vraiment les abonnements à des journaux hebdomadaires. Voilà, imaginez qu'en France, on vendait 3 millions d'exemplaires par semaine. Mmh. Donc c'était très important. Les albums ont pris le relais. Puis il y a les mangas. En fait, le renouvellement est perpétuel. Et n'oubliez pas qu'il y a 30 ans, on vendait des millions de dictionnaires et d'encyclopédies qu'on ne vend plus. Voilà. Donc c'est une capacité de renouvellement quand même très, très, très permanent. Je crois à l'écrit, je crois aux livres imprimés parce que beaucoup de livres sont offerts, et notamment à Noël, et je ne pense pas que vous ayez envie d'offrir un téléchargement, donc vous offrez un livre, un vrai livre, et ça continuera, c'est un objet qui nous permet de partager ce qui nous a marqué, ce qui nous touche, intellectuellement, spirituellement, et je dis souvent que la lecture d'un livre accroît notre liberté intérieure.
Merci. Voilà. Merci Vincent Montagne d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes notamment le président du syndicat national de l'édition et je vous souhaite une bonne semaine sainte à vous.
Merci à vous.
On sait que les sujets littéraires vous intéressent, chers auditeurs. Samedi prochain, Jean-Claude Parier recevra l'écrivaine Catherine Cusset dans Conversation littéraire, à retrouver en podcast également sur kateoradio.com, l'application mobile et les plateformes d'écoute comme tous les programmes de KTO Radio. Allez, il est 8h59, il est temps de conclure cette matinale. Je vous retrouve demain et toute l'équipe